carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Jacques-Louis Binet, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts.
Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir ici à Canal Académie Daniel Buren, qui a eu la gentillesse de venir pour son exposition Monumenta 2012, excentrique, travail in situ, au Grand Palais. Et peut-être plus que l'exposition elle-même, nous allons essayer de mettre l'accent sur tout le travail de préparation qui a été l'objet d'un catalogue et d'autre part de dessins qui sont très instructifs pour essayer de comprendre le travail de l'artiste et de lui en particulier. Avant, je voudrais d'abord situer les autres. Qu'est-ce que c'est que Monumenta ? Vous savez, ce sont des grandes manifestations qui ont été tenues au Grand Palais, avec en 2007 Anselm Kiefer pour Chute d'étoiles, et l'année suivante ou deux années plus tard, Anselm Kiefer faisait des cours au Collège de France. Ensuite, Richard Serra, qui était déjà venu à Paris pour montrer ses sculptures avec une sculpture qui a longtemps traîné dans un mauvais square à Paris, qui s'appelait Clara Clara, une sculpture que j'adorais. Malheureusement, elle n'a pas très bien fini. Ensuite, en 2010, on avait Christian Boltanski avec une grue, et une grue qui prenait et rejetait des vêtements, et le thème s'appelait Personne. Et en 2011, l'année dernière, on avait Anish Kapoor qui a fait un immense gonflable de 17 mètres de haut, avec quatre espaces réunis au centre, et qui avait pour titre Léviathan. Ça, c'est Monumenta. Maintenant, plus important, c'est notre sujet, eh bien, c'est Daniel Buren lui-même. Il a parcouru la France et le monde pour montrer son travail, et son travail, on peut l'intituler comme générique, in situ, avec une exposition que personnellement j'ai adorée, qui s'appelait Caridoscope, au Musée d'art moderne de la ville de Paris, avec Suzanne Paget, où il montrait aux spectateurs, à travers des petites fenêtres, ce qu'il fallait voir dans le musée. Ensuite, j'ai vu aussi à la Vieille Charité de Marseille, je crois que c'était Germain Viatte qui s'en occupait, ou je ne sais plus qui, peu importe, dans ce lieu superbe, la cabane éclatée en 85. J'ai vu aussi à Bordeaux, dominant, dominé en 86. Par contre, je n'ai pas vu effet contre effet à Versailles en 2004. Je n'ai pas vu l'exposition qui a connu un énorme succès à travers l'Amérique au Guggenheim, qui était Round the Corner à New York en 2005. Et je n'ai pas vu non plus l'exposition One Thing to Another One à la Galerie Leeson de Londres en 2011-2012. Tout ça pour vous dire, il a beaucoup travaillé ailleurs et tout ça sous le même signe de in situ. Avant de commencer, je voudrais très rapidement parler quand même de ce qu'il a fait à Paris, les deux plateaux, parce que je trouve que ce travail dans la cour d'honneur du Palais Royal de 1986 a été l'objet de batailles ridicules et que maintenant, où les passions sont un peu apaisées, il peut nous dire des choses intéressantes. Alors, je croyais, mais il vient de m'expliquer que ce n'était pas vrai, qu'il était parti des bandes verticales des stores des fenêtres au-dessus des arcades du Palais Royal. Et c'est faux, il est parti de ces bandes à lui et il a su conjuguer dans un espace très fermé le style d'un architecte qui était connu, qui s'appelait Victor Louis, au sol de Paris, c'est-à-dire, et ça on ne regarde pas le sol à Paris, un double sol, un macadam gris, qu'on connaît tous, et puis des grillages. Il y a partout des grillages quand vous marchez. Et ce que je trouve très étonnant, c'est que ces colonnes n'ont rien d'académique, qu'elles s'enfoncent dans la terre, qu'elles sont de hauteur variable, et qu'elles reprennent finalement, mais ça c'est faux, ce que je vous dis, le dessin des stores, dans les mailles de ces grilles, et elles font apparaître des couloirs qu'on ignorait avec l'eau qui circule. Et c'est la raison pour laquelle cette exposition porte un titre que je ne comprenais pas, le deuxième plateau, il y a le plateau macadam, puis il y a le plateau du sous-sol, avec les bases des colonnes, et je trouve que tout cet ensemble souligne plus encore l'aspect fermé de cet endroit. Les stores, vous m'avez dit que j'avais déconné.
Oui, les stores, d'abord, ils sont là sur tous les monuments publics français. Personne ne sait ni quand ça a été une obligation, ni qui a décidé d'une chose comme ça. Donc, tous les stores sur les fenêtres des monuments publics en France sont blancs et gris et ont la même taille que ce fameux système de bandes que j'utilise depuis déjà très longtemps, depuis 65, et qui, en fait, vient directement de toile à matelas qui ont exactement la même taille. Donc la coïncidence est à peine...
C'est un heureux hasard.
C'est ouais. un hasard, mais...
Mais ça marche très bien.
Je pense que si ça avait été des stores de couleurs unies ou bien des stores avec des petits pois, ça ne m'aurait pas plus ouais. changé le type de travail que j'ai fait là. Ceci dit, votre allusion au store est amusante parce que 2 ans avant, il y avait eu une sorte de concours déjà pour transformer ou pour solliciter des artistes pour faire des choses au Palais Royal. Et que le projet que j'avais donné, comme ça, je dirais presque en pâture, ça avait été un projet sur la couleur et ça consistait à changer tous les stores du Palais Royal, y compris sur le jardin, avec un système de couleurs. Donc on gardait les bandes et on travaillait avec 5-6 couleurs qu'on allait répartir par étage, par propriétaire d'appartement.
Ah oui,
pour les...
de tout ça.
Bon, je pense que j'ai su après qu'on avait bien ri de ce projet qui semblait complètement farfelu. Mais moi j'aimais bien ce projet, ça aurait fait quelque chose d'assez intéressant dès le printemps quand les gens sortent oui. et ouvrent les oui. stores, d'avoir tout cet endroit très monochrome, sortant des couleurs avec le printemps, voilà. Mais ça ne s'est pas fait.
Mais le résultat actuel est quand même assez étonnant parce que on reste monochrome, mais on découvre le sous-sol de Paris. Et je trouve que ce lieu reste très fermé. Il y a le sol et le ciel, c'est tout. Alors
oui,
qu'on est au centre de Paris.
C'est une espèce d'écrin en plein cœur de Paris.
Écrin.
Ça, c'est évident. Mais pour revenir simplement sur le titre, les deux plateaux, c'est pas le macadam.
C'est
les
quoi?
Deux plateaux, ce sont deux plateaux fictifs. Qui est la ligne qui vient rejoindre toutes les colonnes qui sont petites.
Oui.
Cet ajout de ligne, enfin, ce qu'on peut imaginer, c'est pour ça que je dis que c'est fictif, nous donne un plateau parfaitement horizontal.
Assez bas.
Et assez bas. Et ensuite, nous avons toutes les grandes colonnes qui s'enfoncent sous terre, qui forment un deuxième plateau visuel et fictif qui s'en va en diagonale. Ça veut dire qu'il y a plein d'autres plateaux, y compris là où on marche. Mais ceux dont le titre parle sont deux plateaux qui sont visibles, mais fictifs en tant que plateforme sur laquelle on pourrait marcher.
Bon, merci de nous apporter ces informations et merci de me corriger. Vous êtes là pour ça et je vais encore dire beaucoup de sottises, mais vous êtes là pour les corriger. Alors ensuite, il y a la voûte du Grand Palais et vous écrivez tout de suite, quand on vous en parle, « Lumière remarquable et extraordinaire de ce lieu qui, plus qu'un espace d'exposition, est une immense place publique où l'on entend battre la pluie, où l'on voit passer les nuages et où le soleil et le ciel sont très présents. Et dans ce lieu, comme ailleurs, vous travaillez, et ça je crois qu'il faut insister là-dessus, in situ. C'est-à-dire que pour vous, l'environnement est toujours plus important que la peinture elle-même. Ce qui vous importe, ce n'est pas une œuvre qui est transformée comme c'était le cas dans les autres monumenta. Votre sujet, c'est pas les sculptures de Kiefer ou surtout les sculptures de Serra, mais c'est le Grand Palais lui-même. Donc, le modèle, le sujet, c'est le Grand Palais. Alors, grâce au catalogue, qui est extraordinairement didactique, grâce à la reproduction de vos esquisses, on voit apparaître assez bien comment vous avez travaillé. Et je vais schématiser, là encore, vous me corrigez si je dis des sottises. Dans un premier temps, vous cherchez à donner un sens à votre exposition. Ensuite, vous allez essayer de trouver des volumes que découpe la verrière. Et puis ensuite, et c'est le vrai sujet, vous allez essayer de traduire les variations des lumières du ciel de Paris, et faire en sorte que cette lumière se traduise par des cercles colorés. Alors, premier temps, le sens. Là, tout de suite, vous trouvez. C'est dès qu'on vous parle de l'endroit, vous écrivez « Bien avant que je puisse travailler dans ce lieu, dès que je fus invité, bien avant que je sache moi-même ce que j'y ferais et ce que je voulais, en fait, je voulais tracer un parcours nouveau, inhabituel pour les visiteurs, modifier leur perception de l'œuvre et du bâtiment. Et pour donner un sens à cette visite, vous cassez la porte principale, que vous trouvez moche, que vous trouvez pompier, qui s'accorde au petit palais, mais qui ne s'apporte pas du tout à l'intérieur. » Et vous voulez qu'on donne aux visiteurs le plaisir et le travail de découvrir quelque chose. Donc on va partir de la porte nord, qui donne sur les Champs-Élysées, on va aller quelque part, et vous avez tout de suite vu aussi très vite l'importance du centre, l'importance de la grande verrière du centre, du dôme. Mais le dôme, il ne faut pas tomber dessus tout de suite. Et vous dites, c'est rare, c'est dommage, on tombait tout de suite dessus. Vous, vous voulez qu'on travaille un peu, qu'on marche, qu'on se bouscule pour découvrir la hauteur du dôme et avoir une impression de vide. Donc, tout de suite un sens nouveau. On part de l'avenue des Champs-Élysées et on va vers les quais. Là, je crois que vous n'avez rien à dire, vous l'avez écrit très bien et je ne fais que mal traduire ce que vous avez dit. Deuxième chose, et très intéressante, et qu'on voit admirablement dans ces dessins, c'est le travail sur les volumes. Alors les volumes, vous travaillez, vous pensez, vous réfléchissez, vous tournez autour. Et ce que vous voulez, c'est quand même opposer le vide et le plein. Alors, vous figurez un espace, d'abord un grand palais complètement coupé, avec un espace totalement vide et un espace rempli, je ne sais pas très bien pourquoi, d'arbres exotiques. Bon, et puis un miroir qui fait passer peut-être un espace dans l'autre. Bon, premier projet. Deuxième sujet, tout de suite, vous attachez tout de suite à la coupole que vous voulez isoler. Et il y a trois ou quatre dessins où, à gros traits, vous fermez la coupole par des dessins et vous avez même un projet pour l'enfermer du bas jusqu'en haut et montrer comment le volume peut monter. Projets qui n'ont pas été réalisés, mais qui montraient que vous travaillez. Et puis, brusquement, arrive la grande idée. Cette grande idée vient, et ça c'est tout à fait votre méthode du travail in situ, vous regardez de quoi est faite cette architecture. Et il y a eu un très bon article dans Le Monde de Christophe Donner qui vous imagine, arrivant au Grand Palais les mains vides, le Grand Palais, dites-vous, est constitué de ronds, c'est comme ça qu'il a vu les choses, des courbes, des ovales, des arabesques, des rondes partout. Les seules lignes qui se manifestent sont les rayons du soleil qui traversent la verrière. Et vous enchaînez, sans l'avoir lu, puisque l'article a été écrit, l'exposition faite, vous écrivez « Le déclic se fit lorsque je m'aperçus enfin que toute cette architecture de fer et de verre était fondée sur le cercle, que tout le bâtiment était dessiné en utilisant un compas pour outil principal. J'ai alors fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de croquis discutés avec Patrick Beauchamp, Joël Julienne, et Jean-Louis Froment, qui était l'ancien responsable du musée de Bordeaux. Et puis à vous trois, vous trouvez ce qu'il faut faire, c'est-à-dire comment exprimer ces cercles colorés. Alors, comment ça s'est passé, ça, votre déclic entre le passage et vous trouvez une formule pour dessiner des cercles qui doivent être tangents les uns les autres et produire une autre structure qui va nous permettre peu à peu de rentrer sous la coupole. Comment ça s'est passé, ça? Parce que c'est compliqué, c'est compliqué.
C'est un petit peu comme vous l'expliquez, c'est-à-dire que les choses viennent petit à petit. Il y a une grande ligne directrice, c'est la lumière, une autre, c'est le volume d'air, et à partir de là, d'essayer de rendre ça visible, parce qu'a priori, c'est quand même à la fois dans quoi on est baigné, et ces deux éléments, la lumière et l'air, sont pour le moins indéfinis. Et elles sont en même temps tellement toujours là, pour notre survie, que évidemment on n'y pense même plus et on ne le voit pas, ça n'a pas de forme a priori. Donc il fallait trouver comment que d'autres puissent aussi voir ça, et c'est comme ça qu'en étudiant le lieu, je me suis rendu compte, ce qui n'est pas tout de suite évident, c'est curieux parce que quand on commence à le regarder, ça devient absolument phénoménal. Tout est fait sur le cercle. Les boulons sont ronds, les dessins de la coupole sont ronds, les dessins sur le plancher, il y a des grandes mosaïques qu'on voit quand on fait attention, mais qui ne sont pas là d'une façon très spectaculaire, sont des ronds. Enfin bref, on est totalement pris dans des demi-cercles, des ronds, et quand c'est ni le demi-cercle ni le rond absolu, la circonférence, nous sommes en phase d'ovale ou de sinusoïde. Donc tout est en courbe. Dès que j'ai compris qu'il fallait non pas que je travaille sur la verrière directement à cause d'un tas de problèmes techniques, mais que j'invente une verrière, ce qui était évidemment beaucoup plus pratique, comment cette verrière devait être dessinée, elle a été, d'ailleurs on le voit dans un des dessins, d'abord été très simple et orthogonale. Je me suis rendu compte que ça ne marchait pas tellement bien. C'est là où les cercles sont arrivés et... Pour leur donner cette forme assez spéciale, puisqu'il y a cinq cercles de différents diamètres qui se juxtaposent les uns aux autres, tous tangents, nous avons trouvé, c'est d'ailleurs Patrick Bouchain qui a trouvé ce dessin, un dessin du Xe siècle fait par les Arabes et qui a été retrouvé au XIXe siècle dans l'Alhambra de Grenade, qui est une formule extrêmement compliquée, qui permet, avec cette proportion de 5 cercles de tailles différentes, de remplir toute surface en utilisant cette surface au maximum, puisque par définition, deux cercles un à côté de l'autre.
Tangents les uns à côté des autres.
Tangents et laissent toujours un petit espace, ou un grand espace. Et cette formule permet que cet espace soit extrêmement réduit. Et donc, on a appliqué ce dessin et cette formule, et on l'a mis à la taille qu'on a désiré mettre pour remplir toute la surface au sol, qui est entièrement de près de 14 000 mètres carrés. Et nous avons utilisé un peu plus de 9 000 mètres carrés, puisque, comme dans tout lieu, il y a des contraintes. Et l'une des contraintes, c'est qu'on ne peut pas s'approcher des murs. Donc, il y a tout un couloir de sécurité qui se trouve entre cette construction et les murs du périmètre du Grand Palais.
Alors, vous voyez, il vous a bien expliqué comment, partie des notions presque abstraites, l'air, la lumière, il arrive, à l'aide de l'analyse du bâtiment, à la notion de cercle et de cercle coloré, les deux choses étant collées l'une à l'autre. Alors, maintenant, ces cercles colorés, où les mettre? Parce que vous n'avez pas dit que vous allez créer, et on va tout de suite passer à la réalisation, ce que vous appelez dans votre catalogue « dispositif », c'est très clair, c'est presque un cahier de charge pour les gens qui vont travailler. Dispositif, ben d'abord on rentre par le nord, entrée, je veux dire presque sommaire, avec quand même un portique qui est quand même rayé aux bandes, verticales et horizontales. Et puis là, un couloir, on dit qu'il est sombre, il est très blanc le couloir. Ma mémoire est défaillante, hein. Je crois que j'ai été trois fois.
Il n'a pas de lumière sauf à l'entrée.
Mais il est clair.
Il a la lumière naturelle, donc il est peint en blanc.
Oui, c'est ça.
Mais si vous regardez bien, il est plutôt gris foncé.
Oui.
Simplement parce que c'est un tunnel, c'est
tout.
Oui,
c'est ça. Donc un tunnel, on retrouve l'idée du kaléidoscope. Enfin, c'est pas la même idée, mais un chemin.
Un chemin.
Qui va vous conduire ailleurs. Et alors là, il y a une trouvaille formidable qui est un plafond. Alors, on va appeler ça la forêt ou un toit, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui est réalisé par ces fameux cercles dont vous parlez, qui sont à 2,5 mètres, 3 mètres, c'est-à-dire assez bas pour un homme normal, mais quand même.
2,50 mètres.
Et qui va réaliser, c'est-à-dire qu'on arrive sous quelque chose. Et ce sont ces cercles colorés, chacun d'une couleur différente, il vous a expliqué. Alors, il y a 4 couleurs, le bleu, le jaune, l'oranger et le vert. Eh bien, ces 4 couleurs sont distribuées statistiquement d'une façon égale. Je crois qu'il y a un peu plus de bleu qu'ailleurs, mais c'est pas vrai. Tout se répartit d'une manière très bien. Eh bien, ce sont ces cercles qui vont apporter la couleur. Car l'origine de la couleur, c'est pas une machine, ce sont pas des faisceaux de lumière, c'est le ciel. Donc, voyez comment il a posé le problème. Il faut que le ciel, et ça c'est très important, il faut que le ciel de la verrière se reflète sur le sol. C'est pas une idée facile. Donc, le visiteur est sous ce toit. Quand il regarde la coupole et par les interstices, il voit ce qu'était la coupole vraie. Il la voit colorée par le cercle, par la couleur du cercle sous lequel il est. Ce qui est aussi important aussi, c'est que ces cercles se projettent par terre. Il y a un double jeu de cercles. Et là, je trouve que vous trouvez quelque chose. Et ça dépend du ciel. Ce qui est impossible, c'est comme si dans son studio, on disait que notre voix dépendait de la température. C'est faux. Notre voix, elle dépend de la machine. Eh bien là, ça dépend du ciel de Paris. Beaucoup de chance. Il se trouve qu'il a fait assez beau pendant l'exposition.
Oui.
Pas
enfin,
toujours. Pas
il
toujours.
A fait plutôt très mauvais. Mais bon,
<c'est... rire> j'étais là au bon jour.
Il a fait plus mauvais que normalement. C'est-à-dire qu'on a été dans des cieux extrêmement couverts pendant de longs jours. Mais bon, le mieux, c'est quand le ciel passe très vite, comme à Paris, les nuages courent, etc. Et on a sous les yeux ces changements perpétuels qui viennent se projeter sur le sol, soit de façon diffuse dès que le ciel est blanc et que le soleil n'est pas là. Donc, on a une couleur saupoudrée sur le sol. Et dès que le soleil apparaît, une impression quasiment photographique de ce qui est sur nos têtes, donc tous ces cercles, avec leur couleur. Donc la couleur, pourquoi? Parce que c'est une des façons bien connues de montrer la lumière.
Et puis c'est votre travail.
Et puis c'est un jeu sur la couleur aussi, bien sûr. Et proche du sol, pour deux raisons. La première, c'est que quand on va avoir le soleil, ça se projette et ça se projette très net. On le voit d'ailleurs très bien avec ce que j'ai fait sur la coupole, qui est également couverte de filtres colorés, qui, lorsque le soleil est là, viennent se projeter sur le sol, mais sont un peu plus flous, parce qu'on est à 45 mètres de haut. Donc, le temps d'arriver sur le sol et l'image est un peu floutée. Alors que la lumière qui se projette et qui vient projeter les cercles
de
couleur est absolument nette sous nos pas. La deuxième chose, c'est que ce plafond très bas, c'est le plus bas possible, parce qu'en dessous, on n'a pas le droit, donc c'est très simple, c'est toujours ça qui me donne des normes. 2,50 m, c'est le plus bas autorisé dans un lieu public, permet en fait de se trouver dans une autre configuration, on pourrait presque dire dans une autre architecture. Et cette autre architecture, elle est à l'échelle humaine. Elle est donc, je dirais, directement critique par rapport au titre même qui s'appelle « Monumenta ». Et donc ça, c'est une façon de jouer. À la fois, on ne camoufle pas cette espèce d'énorme et de très très belle nef qui sert d'enveloppe, parce qu'on la voit, il suffit de lever la tête, on la voit colorée, et avec le cheminement, lorsqu'on se trouve au centre, on voit toute l'architecture, donc elle n'est à aucun moment camouflée ni dissimulée. Mais en même temps, lorsqu'on marche et que généralement on se tient droit, on a une perspective très basse et cette perspective nous couvre. Donc on a à la fois une sorte de paradoxe, on est dans une autre architecture qui cache celle qui accueille et au moindre coup d'œil, en changeant d'axe ou de bouger la tête et autres, on voit bien le lieu d'accueil dans le même moment. Mais du coup, on n'est pas en train de faire une compétition ni sur la taille, ni sur le monumental. Et ça, je pense que c'est important.
Grande
dans
originalité.
L'exposition.
Et puis l'arrivée quand même sous la coupole.
Parce qu'on arrive sous la coupole, effectivement, et là, c'est comme
s'il n'y a plus de toit sous la coupole.
Donc tous les toits cerclés que j'ai installés disparaissent. Ils sont découpés comme au laser sur une projection directe de la coupole, du plus grand cercle de la coupole. La coupole étant constituée de cercles concentriques qui vont en s'agrandissant jusqu'à arriver sur les piliers de la grande nef. Donc on a des cercles, et ils terminent aussi, ce qui est un rapport sur la pièce, ils terminent de façon tangente à ces piliers, et tous mes cercles sont tangents les uns aux autres. Donc cette espèce de grand cylindre,
ouverture,
qui est un cylindre aussi imaginaire, mais qui est là, dès qu'on s'en rend compte, on le voit comme s'il était dessiné, amène le visiteur, dans un premier temps, à lever la tête et voir d'un seul coup ce qu'il y a de plus haut dans ce lieu à 48 mètres, et qui est coloré comme le reste, donc c'est comme si ce toit d'un seul coup était monté à 48 mètres, en bleu, oui. Et en même temps, s'il laisse la tête normale ou qu'il la baisse, il va se confronter à une série de miroirs circulaires qui sont au sol, dans lequel il va y avoir l'effet inverse de dominer cette espèce d'énorme coupole et cette hauteur qui est là quand même très grande, puisque c'est quand même la hauteur de l'Arc de Triomphe.
C'est presque une notion de vertige, là. Et moi, j'aurais préféré, critique idiote, que tout le sol soit un miroir.
Mais ça a failli.
Ça a failli. Ça va rester dans notre faux souvenir.
Voilà.
Non, parce que c'est formidable. Là, il y a un peu la notion de vertige, paradoxale. On vient de cet endroit qui, vous l'avez dit, très fermé quand même, très coloré, très fermé, très étudié, puis boum.
Oui.
On monte à 50 mètres.
Voilà. Et je pense que c'est là où on peut avoir cette sensation de ce qui m'intéressait parmi les points de départ, c'est-à-dire le volume d'air.
C'est ça.
D'un seul coup. Bien sûr, l'architecture qui va apparaître, elle est très belle et on va pouvoir l'admirer. Ce qu'on ne peut pas faire généralement dans les manifestations qui se succèdent au Grand Palais, puisque c'est souvent couvert, c'est-à-dire que ce sont des stands, ce sont des objets
sûr,
et autres
sûr,
qui font
des expositions. C'est tout
on
à
ne
fait
voit
sûr.
Pas tellement la belle structure du Grand Palais.
Tout à fait, la structure des sourds. Alors, vous voyez l'important, il part d'une notion presque abstraite, le volume d'air. On ne sait pas très bien ce que c'est que le volume d'air. C'est presque une notion mathématique, physique qu'on s'invente, qu'on se crée. Et par les cercles, par la couleur, il arrive à cette image. Là, vous forcez, vous allez assez loin. Et puis, il faut bien sortir, on ressort par exactement la même architecture que celle de l'entrée, toujours la même forêt. Et puis ensuite, il y a la bibliothèque et ensuite, il y a la sortie vers les quais. Donc, un grand travail. Vous faites un travail d'architecte. Vous n'êtes pas du tout peintre. Vous êtes professeur d'architecture pour montrer le rôle des cercles dans l'architecture de fer. Ça, je trouve, et que le Grand Palais apparaît tout à fait grandiose. Écoutez, je crois qu'avant de terminer, je voulais vous poser quand même quelques questions idiotes. Pourquoi excentrique ? Ça, j'ai rien compris. Expliquez-moi.
Bah, je pense que très souvent, sous-titres. Dans les titres que j'utilise, ce sont des titres qui sont assez abstraits et à tiroir. Donc, déjà, n'importe qui peut avoir une idée avant d'avoir vu l'exposition et après l'avoir vue, éventuellement préciser cette idée. Moi, je dirais que tous mes cercles s'en vont du centre, c'est-à-dire qu'ils vont en dehors du centre, le centre étant la grande coupole qui elle-même est une série de cercles concentriques. Là, nous avons des cercles qui se décentrent. Et il y a une autre chose alors qui est véritablement excentrique, c'est le fait que lorsque le soleil tape sur ces cercles, la projection n'est plus jamais un cercle et que le centre n'est plus jamais au centre. Vous avez une espèce d'ellipse.
Oui, de projection.
Ça la projection donne une ellipse. Sur le sol donne une ellipse. Et l'ellipse n'est plus jamais au centre de l'origine du cercle.
Bon, très bien. Ça nous fait revoir qu'est-ce que c'est que ces cercles et qu'est-ce que c'est que la lumière sur ce cercle. Sans vous vexer parce que ça vous énerve, un mot de Braque qui pense un peu comme vous. Lui, il ne parle pas in situ. In situ, c'est un mot moderne. Il écrivait « La mise en œuvre a toujours le pas sur le résultat escompté ». C'est pas mal. Il a fait ça en 1915. Hein. Il a écrit ça, non, plus tard, à la fin de sa vie. Mais pour vous montrer qu'il est un peu comme vous. Il y va, il s'intéresse au fond plus au travail qui se fait qu'au travail qui est fait. Ça, je trouve ça.
Ben, je pense que toute personne qui fait quelque chose, que ce soit un artiste, un écrivain, un musicien et autres, est toujours passionné par la fabrication.
Voilà.
En ce qui me concerne, c'est ce que je donne à voir qui compte. La fabrication, ce sont que des anecdotes. Ah oui, ah. Complètement. Je m'en fous pas du tout personnellement. Oui. Mais à la limite, les autres ne doivent pas s'en inquiéter. On leur donne quelque chose qui est terminé. Oui. Et si on leur dit, je sais pas, c'était beaucoup mieux avant que ce soit fini, bah alors faut pas le montrer.
Oui, n'empêche que par votre méthode, là, telle que vous le montrez, telle que le catalogue le décrit, pour ceux, l'exposition ferme. Mais pour ceux qui n'ont pas vu l'exposition, qu'ils achètent le catalogue et qu'ils achètent les dessins qui s'appellent esquisses graphiques, on voit l'exposition. Il suffit d'aller au Grand Palais, vous la retrouvez complètement. Je trouve que là, quand même, le cheminement que vous parcourez, je parle pas du visiteur, je parle de vous. C'est plus intéressant peut-être que le visiteur, qui est là, on ne sait pas très bien pourquoi il est venu, parce qu'il s'emmerde. Et il fait beau. Il fait beau, il fait trop chaud à Paris. Il veut avoir le
S'il faisait chaud, ça c'est un très mauvais lieu. Parce que dès qu'il fait chaud, justement, c'est le paradoxe du mauvais temps qu'on a eu, c'est que c'était très agréable dedans, c'était frais relativement. Dès qu'il fait chaud, c'est une fournaise.
Ah oui.
Et le Grand Palais n'est pas bien sous la chaleur parce qu'on monte très facilement à 45 degrés, voire plus, et qu'il y en a envie surtout de sortir, prendre l'air.
Quelles sont les peintres de la couleur qui vous intéressent? Matisse, vous aimez? Vous rejetez ça complètement?
Ah non, bien
parmi
sûr.
Les grands ancêtres.
Je n'aime pas tout chez Matisse, mais ce que j'aime, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les papiers découpés.
Voilà, c'est ça. L'admirable fin.
Qui sont extraordinaires.
Où le dessin est devenu, la coupe est devenue. Il dessine dans la couleur. Et puis alors, je sais que ça va vous agacer et que vous n'allez pas me répondre, mais tant pis. Dans vos entretiens avec Michel Parmentier, il faut aussi vous lire, parce que vous venez de publier un dernier livre là où vous racontez ce que vous faites. Il écrivait en 91 que vous êtes en perpétuelle expansion. Où en est aujourd'hui votre expansion? Autrement dit, quels sont vos sujets? Est-ce que vous allez attaquer quelque chose sur les courbes?
Mais il y a des projets, parce qu'évidemment, on n'a pas d'un coup un projet, puis plus rien pendant 20 ans. En tout cas, quand ça se passe comme ça, c'est assez triste pour l'artiste en question. Donc, il y a des projets en cours. Il y a des projets qui sont prévus dans assez longtemps. Il y a des projets qui durent très longtemps. Je travaille sur une des stations principales du métro de Londres. On a commencé il y a 5 ans et si tout va bien, on aura fini en 2016. Donc ça, ce sont des projets à très longue échéance qui m'intéressent de faire, mais heureusement, je n'en ai pas beaucoup comme ça parce que j'aime plutôt aller vite. Et donc là, on est vraiment dans la lenteur. C'est tellement compliqué. C'est d'ailleurs pas mon projet qui est compliqué, mais évidemment, ils refont toute la station de fond en comble. Donc c'est une logistique très très difficile puisque la station n'est jamais fermée. Donc on peut imaginer les bouleversements avec les milliers, voire les centaines de milliers de personnes qui passent là chaque jour. Donc il y a des projets comme ça, il y en a qui sont beaucoup plus impromptus, plus rapides, où j'arrive dans un lieu et je sais même pas ce que je vais faire. Et 8 jours après, il y a une ouverture, donc il vaudrait mieux... Et généralement, j'y suis toujours arrivé, qu'il y ait quelque chose qui soit montré aux gens qui vont se déplacer. Voilà, donc ça navigue entre des lieux très grands, des lieux qui sont extérieurs, des lieux qui sont dans l'institution. Et c'est pour moi cette espèce de variation de lieux, de ping-pong entre des choses de l'institution et des choses qui ne le sont pas, avec le carrefour de l'urbanisme que l'on peut faire si on travaille sur une place publique, dans un village ou dans une ville, ou dans une toute petite galerie, ou parfois encore plus petit, dans l'appartement chez quelqu'un. C'est cette variété et cette obligation d'essayer de s'adapter et de contredire ou de transformer ou de se mettre en osmose avec tous ces lieux, chacun à sa façon et chacun à sa place, qui est vraiment excitant. C'est une chose où justement on peut avoir l'angoisse, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Mais en même temps, on est sollicité complètement par le fait que le lieu est tellement riche et tellement à chaque fois inattendu qu'il vous ouvre un peu l'esprit, qu'il vous ouvre les idées. Et quand on dit lieu, bien sûr, il faut entendre pas seulement ce qui est plus visible, l'architecture du lieu, mais les gens qui y habitent, les gens qui vous invitent, les gens avec qui vous allez travailler. Tout ça, ça fait une foule de paramètres à travers lesquels, bien, de temps en temps, on trouve un fil et on arrive à faire quelque chose.
Alors, trouvez maintenant des fils à Paris. Revenez un peu à Paris, vous parcourez le monde, on aimerait bien vous revoir. En tout cas, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et merci, et surtout continuez à rester en pleine expansion. Merci d'être venu à Canal Academy. Nous sommes très reconnaissants que vous nous ayez fait cette analyse que peu de gens auraient pu faire de votre travail. Merci.
Merci beaucoup.